Bonjour, bonjour.
Ah, voilà Jérôme,
oh,
on l'a retrouvé.
C'est formidable, on fait de la radio, c'est quand même mieux avec la voix. Bonjour les enfants,
c'est mieux avec la
voix.
Je me disais, il y avait un problème. Bon, Jérôme, hey, c'est du direct, c'est ça qui est vrai, c'est moi qui ai la technique.
Allez, c'est parti dans l'auto-justification.
Tonton Yves, il est pas doué. J'ai eu un problème au niveau du lancer du générique, alors je vais faire un truc. Test générique.
Ah, c'est beau.
C'est quoi le plan, boss? Me dis pas que t'es inquiet.
Salut.
Salut.
C'est Soundtrack.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma.
C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance.
Alors ça, si c'était pas de la galère, on est tous en sous-marin, on va essayer de faire un truc bien. Et donc, nous sommes sur Soundtrack 7, Jérôme, Maëlan,
ouais,
nous sommes tous les deux. On a presque déjà coulé, on voulait que ça se passe tout bien,
non.
Ça se passe tout bien. Bon, alors on est donc tous les trois.
Tu nous as fait une bretonne, tu nous as fait une galette bretonne.
Ah, c'est une complète.
Ah oui.
Ouais. Et Teddy est pas là, c'est peut-être pour ça. Il nous manque notre Teddy Bear, hein. Mais bon, je sais pas. Il est en vacances. Bon, il a le droit. Il dorlote sa famille, ses enfants.
Ouais.
Et justement, il est surtout incapable d'assumer le fait que comme c'était spécial romantisme et Saint-Valentin pour l'émission de février, il ne voulait pas tenir la chandelle entre eux. Tic et tac.
C'est surtout que oui. Enfin bon, il en a pris une aussi au grandet, donc
Et surtout, il n'assume pas d'avoir laissé Maëlan filmer le tout. Ah, c'est sale.
Dis donc, mon Yves.
Oui.
On ne voulait pas parler sous-marin à la base.
Bah si, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire au départ. Avec ce gros raté de démarrage, moi, je me coule dans le meuble.
En rade de Brest.
Ah ouais,
s'il vous plaît.
Je suis en rade de Brest. Bon. Donc, on va parler de films de sous-marins.
Oui.
Ouais.
Mais qui est la technique vidéo, dis donc ?
Qui est la technique vidéo ? C'est donc Maëlan, le plus jeune chroniqueur de France que vous retrouvez au Grand D.
Ouais.
Il va piquer
patoche,
ta place.
Hein. Oui.
Bah. Il a fait glisser Patoche dans les escaliers.
C'est déjà sale. On va s'arrêter là. On fait sous-marin,
On parle de sous-marin. Et moi, je vous avoue, vous avez peut-être reconnu... un peu l'air dans le générique, les compagnons de la chanson avec le sous-marin vert. Eh ouais, parce que il était jaune en Angleterre, il est arrivé vert en quittant l'Angleterre.
C'est vrai.
Et moi, je peux vous parler des Beatles, Yellow Submarine, le Titanic aussi si vous voulez, mais on en a déjà parlé avec Céline Dion, quand il fait glou-glou, c'était devenu. Donc pour les Beatles, moi, je veux bien vous en parler, c'est un film d'animation, mais allez. Je vais peut-être te laisser parler un petit peu. Plouf, plouf.
Ah oui, c'est l'heure de mon post-it de 3 km.
C'est ça. Moi, je vais me coucher.
Bon, alors voilà, avec ce qui vient de se produire, chers messieurs, dames, écoutez, vous comprenez que moi, à la différence du breton habitué à pas manger de soleil trop souvent et plus de crêpes, moi, je suis en manque. En manque de soleil, en manque de palmiers, de bourgeons en fleurs, de plages, de fruits frais. Ça tombe bien. On est hier et j'ai un édito à écrire sur les sous-marins au Cinoche. Et l'actualité me file l'envie d'habiter sous ma couette. En plongée, donc, bien dans les pompes d'un sous-marinier, dans un environnement exigu, rationné, anxiogène, voire terrifiant. Allez, on y va. Hein, petit clin d'œil, c'est chez nous, ça. La dissuasion nucléaire, la mission qui prime, la vie en espace clos, la collectivité, le summum de l'inconfortable pour les premiers U-boats, hein, la barbe traditionnelle de ceux qui rentrent après des mois de mer. Hein, on voit pas trop ça dans les films hollywoodiens. La chaîne de commandement pour maintenir ce petit monde pendant les longues périodes de dilution, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les oreilles d'or pour ne pas être aveugle en plongée. La réputation du cuisinier entre également pour beaucoup dans le maintien du moral de l'équipage. Ça et les courts messages appelés « family », où l'on manie l'art de la censure intelligente pour ne garder que ce qui est supportable aux yeux de qui ne peut pas rentrer à l'instant pour un éventuel impératif familial. Le moral, c'est capital, vous dis-je, vital. Mais d'abord, assurons la base. Un sous-marin est un navire submersible capable de se déplacer soit en surface, soit sous l'eau. Ah oui, si. Il se distingue, entre autres des bateaux, et des navires qui se déplacent uniquement à la surface. Il y a les bathyscaphes aussi qui se déplacent principalement selon l'axe vertical. Le sous-marin, on ne va pas faire un peu de science, mais un petit peu quand même. Allez, le principe d'Archimède et le principe de Pascal. Alors Pascal, ouvrez vos cahiers. Sur la surface d'un corps immergé s'exerce une pression perpendiculaire à cette surface égale au poids par unité de surface de la colonne de fluide. Sous-entendu, plus tu descends profond, plus tu risques de finir comme Yves en crêpe. Voilà. Les sous-marins au cinoche, du blockbuster au film basé sur des événements historiques, du presque reportage car tellement réel, en passant par les séries B d'Hollywood, du temps des stars iconiques, justifiant à elle seule un scénario qui, parfois, il faut bien le reconnaître, sans la rengaine romantique, sauce pseudo-militaire et guerrière pour la couleur. Des sous-marins de toutes les couleurs aussi, de romans d'aventure, et nous ne pourrons balayer tout le spectre. Petite pépite à la fin, un vrai film qui ne se prend pas au sérieux dans la lignée des « Y a-t-il un pilote ?» ou « Y a-t-il un flic ?» mais je vous laisse chercher. Voilà, camarades, pour l'immersion dans le contexte, ouverture des ballastes, machine en avant toute. Plongez.
C'est à moi de recoser après toute la merde que j'ai fait au début. Vas-y, c'était sympa. Alors, donc, en début d'émission, quand j'ai arrêté de bafouiller, je vous ai dit, il y a à peu près un seul film, moi, de sous-marin, sur lequel je suis en capacité de parler, c'est Yellow Submarine, qui au départ est une chanson de The Beatles, en 1966, qui est chantée par Ringo Starr, le batteur. C'est l'une des seules chansons qu'il chante, et c'est sur l'album Revolver. Revolver, album, référence énorme, faut l'avoir. C'est une chanson de style enfantin qui a été composée par Paul McCartney pour Ringo Starr, justement, avec l'aide de John Lennon, de Donovan, et avec un enregistrement joyeusement chaotique, parce que si vous écoutez bien la musique, il y a plein d'instruments dans tous les sens. Et elle est publiée également sur le 45 tours double face à l'époque en 1966 pour la promotion de Revolver. Le 45 tours, Eleanor Rigby, oh, énorme yes. Slow, et donc Yellow Submarine. Et c'est la seule chanson, il faut savoir, de The Beatles, chantée par Ringo Starr, qui soit éditée en single. C'est quand même pas mal.
Ouais.
En 68, cette chanson inspire le film d'animation psychédélique Yellow Submarine, représentant les pérégrinations aquatiques de The Beatles. Ils vont à Pepperland. Chanson thème du film d'animation Yellow Submarine, la bande-son éditée en 69 seulement est constituée de 4 titres inédits de The Beatles. Il y a Only Another Song, désolé mon accent pourri, All Together Now, It's All Too Much et Hey Bulldog, avec donc sa chanson thème Yellow Submarine, et le titre All You Need Is Love, qui était paru en juin 67. Tout ça, c'est des chansons disparates non prévues au départ pour cette bande-son et enregistrées entre 66, 67, 68 durant les sessions de Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et The Beatles, le double blanc. Ouais, c'est pour ça que quand vous connaissez les Beatles, c'est plein de styles différents qui sont mélangés. Et la face B de l'album de l'époque, Yellow Submarine, de cette bande-son, dont elle est agrémentée de musique spécialement composée par George Martin, le producteur de The Beatles. C'est de la bonne musique, adéquate, là pour habiller les scènes, mais à l'époque, les fans ils trouvèrent ça étrange sur un album estampillé Beatles. Donc même s'il est correctement vendu, ce 10e album est dans l'ombre, en plus du double album The Beatles, paru 2 mois plus tôt. Et la bande-son est seulement sortie 7 mois après le film d'animation. Donc, il y a un décalage qui fait que il n'a pas eu un bel accueil réel quand même. Et comme c'est la maison de disques qui a désiré ce film d'animation, les musiciens étaient peu investis, pas motivés, ça n'allait pas dans le sens qu'ils auraient souhaité. Par exemple, Paul McCartney aurait préféré un style Disney et pas dans la lignée de Sgt. Pepper. Néanmoins, si ce n'est pas une œuvre cinématographique majeure, la bande-son est tout à fait recommandable dans sa disparité. Et alors ouvrons les écoutilles et jetons-nous dans les esgourdes ce Yellow Submarine entonné avec, guetté par Ringo Starr, le joyeux et foutraque batteur de The Beatles.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea.
he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green.
Ah, ce thème Yellow Submarine par The Beatles, chanté par Ringo Starr.
Oh yes.
Bon, on a fait dans le jaune qui était vert en France, on change de couleur.
Ouais, on change de couleur.
On passe au rouge.
Ah ouais, on passe au rouge, on passe au rouge. Allez, à la poursuite justement d'octobre.
Je te laisse quand même le Yellow Submarine derrière.
Tu me le baisses un tout petit peu.
Ouais.
Ouais,
c'est comme ça.
Sinon, je vais rigoler pendant un truc. Il faut pas, c'est pas marrant.
Faut pas.
Hein, c'est pas comme si on faisait n'importe quoi depuis le début. Bon,
je le vois pas ce que tu veux dire.
The Hunt for Red October, for my wonderful English accent.
Bienvenue au club.
Yes, wonderful. Est un film américain donc de John McTiernan, sorti en 90, adaptation du roman d'espionnage Octobre Rouge de Tom Clancy en 84. Bon, le synopsis, on va y aller vite fait, on le connaît tous un petit peu. Un sous-marin de classe Typhon, assez similaire à celui du film. Il en est question, et on va en débattre un petit peu après, et la musique aussi. En 84, lors de la guerre froide, le sous-marin Octobre Rouge, fleuron de la marine soviétique, est équipé d'un nouveau système de propulsion silencieux appelé la chenille, qui le rend indétectable au sonar. Les premiers essais du navire sont confiés au commando Marco Ramius, un Sean Connery dans le film, vétéran de la marine soviétique, aux états de service irréprochables. Sinon, ce ne serait pas le héros. Ce dernier, qui a compris que ce sous-marin est équipé d'armes nucléaires de première frappe, désobéit aux ordres et met le cap sur les États-Unis afin de passer à l'ouest. L'état-major soviétique est informé de ses intentions par une lettre que Ramius a postée avant son départ. Bah, sinon, ouais. C'est pas drôle. Hein. Si on brûle pas ses bateaux en arrivant sur la plage, c'est pas marrant. Hein.
Et pour ceux qui ont l'image sur Facebook, dont Stéphane, qu'on salue, il trouve la chemise rouge très adéquate.
On va faire dans toutes les couleurs.
On salue tous ceux qui sont sur Facebook. On vous remercie pour déjà votre présence et pour vos messages. Salutations à toutes et à tous. Et donc, tu veux une petite musique ?
On y pensait. Avec les chœurs de l'armée rouge, quand même, c'est pas mal. Ouais. Allez, à la poursuite d'Octobre Rouge.
Ça peut être très sympa.
Voilà, Basile Paul Douris, les chœurs de l'armée rouge à la poursuite d'Octobre Rouge, donc.
Qui vont t'accompagner un petit peu, je les laisse derrière.
Oui. Sean Connery, donc, pour les acteurs principaux, Alec Baldwin, magnifique, maigre à l'époque, depuis.
Oh.
Ah bah il a fait comme John Travolta.
On n'attaque pas le physique, voyons.
Ah non, non, on constate, on constate. Hein. C'est en proportion
et
du cachet.
En même temps, il n'est plus dans le sous-marin. Donc il c'est...
Il passait plus. Bon.
Oui, voilà, il s'est dilaté.
On va passer à la suite. Ouais. Allez, Scott Glenn, James Earl Jones, Sam Neill, voilà.
Du beau monde.
Du beau monde, donc aux États-Unis, pour un bon film dans les années 90. Mais on va parler de Basilis Constantine, Paul Douris, dit Basil Paul Douris. Voilà, compositeur de musique, de films américains, d'origine grecque.
Je l'aurais pas dit. Hein.
Ah bah non, 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 il est pas breton non, non plus, tu vois.
Oh.
Ça allait bien en remettre une petite, hein, avec un peu de beurre. Allez.
Salé.
Il, vous en prie. 2007, qui a collaboré donc avec John Milius et Paul Verhoeven, pas le beurre, hein, Paul Douris, qui a composé, entre autres, les bandes originales des films Conan le Barbare,
et non pas Conan le Barbare,
L'Aube Rouge, Aigle de Fer, Le Nanar Magnifique, Robocop, À la poursuite d'Octobre Rouge, donc en 90, Sauver Willy, hein, Starship Trooper et Les Misérables en 98.
Ouais, c'est tout dans le même rapport, quoi.
Oui, plus ou moins, plus ou moins.
Et donc, le compositeur, il commencera par quelques compositions pour la télévision.
C'est
ça. Il a commencé, comme certains acteurs,
la
télévision est quand même un moyen de se lancer, avant de commencer une étroite collaboration avec John Milius sur 5 films.
Ça
et pour
aide.
Ce dernier, Paul et Douris compose en 1982 la partition épique de Conan le Barbare.
Ah, oui.
C'est quand même un Schwarzenegger qui sera considéré par la suite comme une de ses plus belles réussites. Ça fait quand même une belle référence. Et en 85, sa rencontre donc avec le réalisateur Paul Verhoeven sera également déterminante. Pour lui, il compose une autre pièce maîtresse, comme tu as dit, La chair et le sang.
Ouais.
Et les deux hommes collaborent donc ensuite pour Robocop en 87, Starship Troopers 10 ans plus tard en 97. Et par amitié pour John Milius, qui lui confie la musique de Flight of the Intruder en 90.
Ouais.
Il décline la proposition de Kevin Costner,
qui l'a
sollicité pour composer la musique d'un un petit film.
Danse avec les loups.
Ouais, quand même.
Ouais.
Il manque peut-être une belle occasion de connaître la consécration de sa carrière, parce que le film vaudra à son remplaçant, certain John Barry.
Ouais.
Bon, il a quand même un beau palmarès déjà lui-même.
Ah oui.
C'est lui qui a eu l'Oscar de la meilleure musique de film en 91. Mais bon, hein, il aurait... Voilà. La même année, il compose néanmoins la musique à la poursuite d'Octobre Rouge, avec un hymne chanté dans la tradition des chœurs de l'Armée Rouge, ce qui est en train de passer.
Tout à fait.
Et cette utilisation des chœurs aura fortement inspiré par la suite d'autres compositeurs comme...
Un petit nouveau,
on n'en a jamais parlé. Non. Pour le film USS Alabama, c'est...
Hans Zimmer.
Oh, tu aimes bien, je crois, ce monsieur.
Bon, ça fait juste 3-4 émissions qu'on pourrait faire dessus. Mais
on va pas en remettre une couche sur la tartine parce que...
Allons-y.
Donc, allez, voilà, on était quand même... Octobre Rouge, c'est la guerre froide.
Ouais.
Allez, on va réchauffer. On va la réchauffer. Ouais, allez Seconde Guerre mondiale.
On se fait la seconde.
Tu veux un peu de musique avant
on va parler du 571.
Tu veux causer un peu. U571, ouais. Allez. Alors, on s'en fait deux à la suite.
C'est parti.
Le thème de début, le thème de fin.
Thank you.
ceux qui ont Facebook, ils ont vu des choses à l'image. Je m'excuse auprès de ceux que ça pourrait choquer. Mais en même temps, c'est ça la vie dans le studio, c'est que c'est vivant. Et merci encore à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Et désolé pour ceux qui n'ont pas l'image, qui écoutent la radio sur Ornithorynque 90.2 FM, DAB+, canal 7B, enceinte connectée, www.ornithorynque.net. Bah, vous n'avez pas eu l'image, mais il se passe de belles choses en ce 8 mars pour Soundtrack 7.
Je peux en placer une.
On est en sous-marin.
Est-ce que je peux en placer une de temps à autre?
U-571.
Ouais, c'était
c'est
donc
quoi ce numéro?
Voilà. Bah, c'est le code du sous-marin, sauf que c'est un U-boat. C'est là tout l'intérêt de ce film. C'est un film, on va parler déjà du film, américain de Jonathan Mostow, sorti en 2000. Ce film met en scène avec suspense la capture d'un sous-marin allemand par les forces navales américaines dans le but d'en saisir le matériel cryptographique, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le sous-marin, donc, le film, le sous-marin américain S-33 est déployé dans l'Atlantique pour rejoindre l'U-571, gravement endommagé, afin d'y voler une machine de chiffrement Enigma, donc, qui permet à la Kriegsmarine de communiquer en secret avec ses U-boats et de conserver l'avantage dans la guerre navale dans l'Atlantique. Voilà, ça, c'est pour le film. Alors, les acteurs principaux, là, il y a du beau monde. Et c'est assez rigolo de constater qu'il y a... Alors, on a le grand Matthew McConaughey.
Ouais.
Voilà. Bill Paxton, que l'on adore. Ah, magnifique. Ouais. Harvey Keitel, toujours un délire. John Bon Jovi, messieurs, dames.
Un petit chanteur d'un petit groupe américain. Ouais.
Qui joue le capitaine, je crois. Qui joue le capitaine du boat et qu'on ne reconnaît pas, qu'il est très bien grimé. David Reif aussi. Voilà. Donc, le bon gros film états-unien, de guerre, il n'y a pas de doute, avec une musique de Richard Marvin.
Ouais, qui est compositeur de musique de film et qui a, on va dire, pas un palmarès de films très connus, malheureusement. Il en a fait beaucoup, dont donc U-571. Et il a fait également pas mal de musique de séries télé, dont un certain Six Feet Under.
Ah, yes.
Je crois que c'est pas une série très connue non plus. Voilà.
Non.
Donc, on pourra en citer plein, mais voilà, il a pas malheureusement...
C'est pas Hans Zimmer, il a fait son travail, mais voilà.
Et donc, il s'agit d'une fiction qui s'inspire toutefois de faits réels, notamment la capture de l'U-110 par la Royal Navy le 9 mai 1941. Oui.
Ça fait
La prise de l'U-559 également par les Britanniques le 30 octobre 42.
Ça fait 2.
Et la capture le 4 juin 44 de l'U-505 par l'US Navy. Voilà. Donc
On est d'accord.
C'est un film américain qui s'approprie certains faits de guerre que ce sont les Britanniques qui ont effectué en grande partie.
On appellerait ça un Napoléon en ce moment. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, je voudrais pas. Enfin, mais justement, passons à l'ennemi.
On passe de l'autre côté, nous passons en Allemagne.
Le bateau. Das Boot. Film de guerre allemand. Et on y tient.
Ouais.
Réalisé par Wolfgang Petersen en 81. Adapté du livre du même nom. Le Styx en français.
Ouais.
Alors, je vous laisse le. Yves ? Dis-nous le nom.
De quoi? Du monsieur?
Ah oui.
Lothar Günther Borkheim.
Merci Yves. J'adore ton accent breton. L'histoire romancée, beaucoup moins sur certains films, relate les missions du sous-marin allemand U-96 et de son équipage durant la Seconde Guerre mondiale. Le film s'inspire des missions vécues pendant la guerre par un lieutenant. Ouais. Alors, journaliste Hans Joachim Krug, embarqué comme officier à bord du sous-marin U-219. Il participe aussi, d'ailleurs, au tournage en tant que consultant. Le soin est apporté à l'œuvre, ça en fait sans doute le meilleur film de sous-marin jamais réalisé, tant en longueur qu'en intensité. La musique, c'est pas propre et net, c'est pas la brosse de Sean Connery dans un poste d'équipage de balle disco. Je suis désolé, mais vous regardez Das Boot, prenez 2h30, vous êtes dedans. Deux doigts de choper le palu, le scorbut.
C'est la boîte de conserve.
C'est ça.
Avec tout le côté claustrophobe, le côté chaque place, chaque chose à sa place, parce que sinon, hein, et ben, on n'a pas le temps de se raser, on est en pleine guerre, on va pas faire une toilette toutes les 5 minutes, on n'a pas le brushing qui est impeccable.
De toute façon, on n'a pas le temps, on n'a pas la place.
Ouais, on n'est pas à Hollywood, on montre la réalité de ce que c'est qu'un sous-marin.
Tout à fait.
Surtout en guerre.
Donc, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que 40 000 sous-mariniers allemands sont envoyés par Hitler et embarquent pour, soi-disant, une mission de routine dans l'Atlantique Nord.
Oui, ça.
Évidemment. Bah oui, oui, la propagande, tout ça. Tu vois, voilà, formidable, hein, les jeunesses, tout va bien. Évidemment, on sait faire en ce temps-là. L'insouciance règne à bord. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ben, sur tous ces équipages sous-marins, seulement 10 000 sur 40 000 retourneront chez eux vivants.
Ouais,
voilà, ça. Das Boot.
Donc. Et donc, en français, le bateau. Et tu veux que je te dise les noms en allemand des acteurs principaux?
C'est pour ça que je te les ai mis, mon chéri.
Donc, Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer et Klaus Wennemann.
Ja.
Et là, nous avons notre cher et tendre président qui fait des bêtises derrière mon dos. Pour se moquer de moi, ce n'est pas bien, président.
Ludovic !
Je vous demande de vous arrêter. Et donc, on a une musique de Klaus Doldinger.
Voilà.
Voilà, je te l'ai fait pour...
Magnifique. Ouais. Oui, non, mais il y a pris goût. Mais tu vas en reprendre derrière. C'est un saxophoniste et un compositeur allemand. Il est surtout connu comme musicien de jazz et comme compositeur de musique de film. Voilà, il fréquente un conservatoire à la base à Düsseldorf. Il étudie aussi la musicologie et fait une formation comme ingénieur du son. Mmh. Il fait une première tournée aux États-Unis, puis crée en 1962, mon cher Yves, le...
Je suis perdu.
Le Klaus Doldinger
Quartet. Le Klaus Doldinger Quartet, je suis désolé, mais...
On n'arrête pas de le perdre.
Moi, je t'ai dit, j'étais en sous-marin, normalement. Hein. Ah, moi, oui, je dors à cette heure-là.
Oui, bah...
Et à partir de 64, tu veux que je continue? Il compose pour l'industrie publicitaire, le théâtre, et bah, le cinéma. Et en 70, il écrit le générique pour la série policière allemande Tator.
Ah oui.
Tous les personnes de plus de 50 ans, on va dire, connaissent à peu près... En 71, il fonde le groupe Passport, avec lequel il publie 28 albums. C'est pas du petit monde, ça. En 80, il obtient un succès mondial, donc avec la musique du film Das Boot, le bateau. Et en 84, il écrit certains morceaux de la musique du film L'Histoire sans fin. Ouais. Très, très beau film, aussi.
Et justement...
Et donc, tu veux un petit peu de musique de celui-là?
Ah oui, oui, oui.
Vous aimez la claustrophobie? Vous aimez le contact humain rapproché?
In English, on dirait Mein Title, le morceau phare du film Das Boot par Klaus Doldinger.
très lancinant comme musique.
Ouais,
hein.
Très anxiogène. On a les bips du sonar, on attaque sur le sous-marin en plongée. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Faut l'attaquer avec le moral, par contre, hein, parce que un dimanche après-midi, ou alors vous y allez avec une boîte de Xanax, hein, en avant. Hein, voilà.
Hein.
Bon, allez, justement, on a fait les États-Unis, on a fait l'URSS, on a fait l'Allemagne, et maintenant, eh ben, on va faire la France.
Ouais, et pour ceux qui ont Facebook, qui m'ont vu assassiner notre président, hein, c'est pour ceux qui ont l'image.
Pour les auditeurs qui n'auraient pas la couleur.
Et là, c'est lui que vous entendez en arrière qui cause alors que je suis au micro. Hein, on appelle ça un professionnel.
Voilà.
Donc, on parle. Et
mais oui, pas une émission,
on a de la chance quand même en France d'avoir un bon film dans le domaine sous-marin. C'est Le Chant du Loup.
Oui.
Un thriller réalisé par Antonin Baudry et qui date de 2019. Il fête donc ses 5 ans. Je l'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma parce que j'ai vachement aimer justement toute cette ambiance.
Oui.
Et la bande originale du film a été composée par le groupe de musique électronique américain Thomann Dandy. Ah, je l'ai fait à l'allemande aussi,
décidément.
Thomann Dandy, donc. Elle est constituée de 21 morceaux,
voilà,
dont 3 ont été réalisés en collaboration avec d'autres artistes tels Kalanas Chosnau, Marc Rieder, et il y en a qui se marrent. Bah, Alanas Chosnau, je crois que c'est du roumain. Et je ne parle pas roumain. Et autrement, Marc Streitenfeld, là je te le refais à l'allemande, parce que justement, c'est un compositeur de musique de film allemand né en 74 à Munich.
Et le gars qui a fait la plagiste a choisi celui-là. Bon, le gars qui a mis les coups de fluo vert pour Yves, il a aussi choisi tous les noms les plus compliqués pour Yves. Hein.
Ouais.
Voilà, au passage.
Déjà que je ne suis pas venu avec mon chien d'aveugle, hein, t'es vraiment pas sympa.
Non. Il était mangé par le canard noir.
Donc, il est d'origine allemande. Il a déménagé aux États-Unis à Los Angeles à l'âge de 19 ans, travaillant d'abord brièvement comme assistant musical pour le compositeur
Hans Zimmer.
Encore ?
Oui, mais le monsieur a un passif. Hein.
Puis de façon indépendante en tant que rédacteur en chef et superviseur musical sur plusieurs blockbusters. À la demande de Ridley Scott, Streitenfeld compose la musique du film Une Grande Année en 2006. Et après avoir supervisé la musique du film Kingdom of Heaven, il a ensuite composé la musique de 4 films suivants du réalisateur jusqu'à Prometheus en 2012. Et il a été nommé pour un prix BAFTA pour American Gangster en 2007. Ouais. Et avant son travail en tant que compositeur pour Ridley Scott, Streitenfeld avait déjà donc collaboré avec le réalisateur en tant qu'éditeur de musique, superviseur de la musique et conseiller technique sur plusieurs de ses précédents projets, comme 2 petits films encore, La Chute du Faucon Noir et Gladiator.
Donc les deux avec Hans Zimmer.
Ouais. Voilà. Et donc, si vous regardez les films où Hans Zimmer est compositeur, on a Streitenfeld souvent associé à ce niveau-là.
C'est ça, au niveau du montage, au niveau du conseil, de la composition, avec Harry Gregson-Williams aussi, Nick Glennie Smith, enfin que des inconnus dans le métier. Voilà.
Bah,
sur des petits films, Rangoon, Le Fan, Le Pacificateur. Enfin voilà. La Ligne Rouge, c'est bon. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine.
Ouais. Ouais. Allez, on en parle un peu du Chant du Loup. C'est quoi comme thème ?
Le Chant du Loup, justement. Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend. Bon, on
c'est
romance
pas
un
moi.
Peu. Non, c'est pas toi.
C'est
non,
pas
il
n'est
pas venu, tu vois pas non plus. À bord d'un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui. Ça s'appelle l'oreille d'or.
Ouais.
Censé être réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Et quand tu veux en sauver un truc, tu patouilles.
Le mieux est
l'ennemi. On appelle ça un tonton Yves. Et voilà.
Je peux la finir ou
tu peux la finir si tu veux.
Dans le monde
tu veux.
De la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d'un engrenage incontrôlable. Voilà, littéralement.
Et une petite musique pour accompagner tout ça.
De qui ?
De Monsieur Streitenfeld. C'est un thème qui arrive à la fin du film et qui s'appelle Honoring the Dead. Vous comprendrez après, on vous en parle rapidement.
Thank you.
il y a une ambiance, il y a quand même une tension dans ce film, et donc on la ressent sur cette musique.
Ouais, et d'autant plus que c'est la musique de fin qui porte bien son nom, Honoring the Dead, parce que ça se finit mal. Bon, allez, on me raconte un petit peu. Dans le jargon du sous-marinier, l'oreille d'or est en charge des sonars. Eh, c'est déjà moins romantique. Cet officier mène la guerre acoustique, les yeux fermés. La guerre. En devinant si la menace provient soit d'un navire de guerre ou d'une baleine. Et en gros, le pitch, il est clair, la marine nationale est en état d'alerte maximale. Voilà, on peut pas plus. Le résumé, lors de manœuvres périlleuses au large des côtes syriennes, le premier maître Chantraine, la fameuse oreille d'or, incarné, l'acteur, c'est François Civil.
Excellent.
Magnifique. Fait preuve d'une hésitation qui aurait pu coûter la vie à quelques commandos. Le commandant est obligé de sortir l'artillerie lourde, ce qui lui vaut d'ailleurs une promotion. Enfin, c'est une espèce d'engrenage magnifiquement tourné. Quand l'amiral Mathieu Kassovitz lui confie l'effroyable suite à une promotion.
Il est fort, Kassovitz, dans ce film.
Voilà, il est très bon, il est très juste, comme souvent dans ses rôles. Il lui confie l'effroyable, le tout dernier né de la classe des sous-marins nucléaires, lanceur d'engins. Grandchamp, il ne peut pas faire autre chose qu'accepter. Une promotion, ça ne se refuse pas.
À vos ordres, amiral.
Voilà, c'est un peu ça. Et pourtant, il a des doutes sur l'oreille d'ordre. Chantraine, il pourrait être mis au arrêt. On lui fait bien comprendre que c'est l'armée ici, c'est pas les beaux-arts. Pas le temps de réfléchir, la situation, pour autant, en Finlande, dégénère. Les Russes viennent de faire partir un missile nucléaire en direction de la France. Le président ordonne un tir de riposte, l'effroyable part pour l'Atlantique, escorté par le Titan du commandant Dorcy. Alors, on ne sait pas si... joué par Omar Sy. Sauf que Chantraine détecte que le missile identifié pourrait ne pas comporter de tête nucléaire. Ça change un peu la donne quand même. L'information est confirmée. Il s'avère qu'il s'agit d'une manœuvre des djihadistes. On est dans l'ordre des choses. On est dans la problématique.
On est dans un film très très concret dans la problématique.
Voilà. L'idée, ce serait de déclencher un conflit nucléaire mondial. Éteignons la télé, allumons le cinéma. L'ordre a été malheureusement donné à Grandchamp de tirer un missile en représailles. Et quand un sous-marin est en dilution, c'est silence.
Dilution, impossible. Ça veut dire que justement, c'est coupé de toute relation avec le reste du monde.
C'est ça, impossible de faire machine arrière. Vous le voyez venir, une phrase très simple, très claire, va résumer le problème. Mon général, dans la marine, on a des procédures, on le sent bien. Et malheureusement, on les respecte. Mais il n'y a aucune procédure pour annuler un tir nucléaire depuis un sous-marin nucléaire lanceur. D'engin.
Ça calme.
On vous laissera voir la fin. Spoiler alerte. Ça se finit pas bien pour l'un des deux. Le film se finit donc en rade de Brest où les officiers rendent un dernier hommage aux victimes sur la musique magnifique que nous avons entendue.
C'était la musique Honoring the Dead qu'on a eue. On va dire, moi, en plus, ce film, il m'a causé parce que rade de Brest, moi qui suis de Brest, j'ai reconnu plusieurs lieux parce que il y a des scènes qui sont tournées à la base navale, où c'est quand même pas évident toujours d'aller tourner non plus, parce que c'est les militaires, justement. On va pas se balader comme ça, une caméra à l'épaule.
Après, le film fait la promo aussi, donc ça peut aider, je pense.
Et plusieurs endroits connus de la ville, comme le quartier de Recouvrance, le pont de Recouvrance, le quartier la rue de Siam, le bar du Tour du Monde, c'est le bar d'Olivier de Kersauzon. Et de nombreuses scènes ont également été filmées au sein donc, de la rade de Brest, notamment la scène finale qui prend beaucoup aux tripes.
Et justement, y a trois fins possibles qui ont été tournées. C'est le réalisateur qui l'explique. Jusqu'au dernier jour de montage, j'avais trois fins possibles. L'une d'elles assumait le déclenchement d'une guerre nucléaire avec l'envoi du missile. Tout le film a été conçu sans que je sache moi-même comment il se terminerait. Et ça se sent. Il a fait son choix avec les images sous les yeux.
Et c'est ça qui montre aussi une grosse crédibilité en conséquence.
C'est pas cousu de fil blanc.
Ouais, c'est ça.
Évidemment.
C'est pour ça que moi, ce film, il m'a vachement causé. Parce que, on est pris dans la tension, on sait pas où ça va mener.
Voilà.
Bon.
On retourne aux États-Unis.
Allez,
fait dans l'efficace. On va faire dans l'efficace.
USS Alabama, je crois. Allez. C'est ça que t'aimes bien.
Crimson Tide, un film de guerre américain. Tony Scott, 95.
Tony Scott, il fait dans l'efficace.
Toujours, oui. Bon, il fait pas toujours dans le scénario, mais il fait dans l'efficace. Allez, on va faire dans le simple aussi. Trouble politique avec la Fédération de Russie. Un dirigeant ultranationaliste menace de lancer des missiles nucléaires sur les États-Unis, le Japon. Denzel Washington, Gene Hackman dans un sous-marin nucléaire, qu'est-ce qui pourrait bien foirer ? Eh ben voilà, le problème, c'est toujours la même chose. On en a parlé dans Le Chant du Loup. Qu'est-ce qui se passe quand les deux ont raison ? Peut-être que les deux ont tort. Et justement, ce scénario de film est analogue à un incident réel qui s'est déroulé pendant la crise des missiles de Cuba.
Dans les années 60.
C'est ça, à bord d'un sous-marin soviétique B-59. Le B-59. Et le personnage incarné par Denzel Washington est basé sur le commandant second soviétique Vasily Arkhipov. Voilà.
Là, l'affaire c'est toi qui l'as fait, le russe.
Voilà, c'est ça. Bien fait. L'affaire des missiles cubains du côté soviétique pour les sous-marins qui escortaient la surface, c'était l'opération Anadir pour la culture. Voilà. Ce fameux sous-marin B-59, il avait juste une petite torpille nucléaire à bord, en plus de torpilles conventionnelles. Et ça s'est joué de très peu, en fait. Ça s'est joué, il y en a un.
T'as dit, il n'y a pas de consensus, c'est justement qu'il y en a un qui a...
Heureusement, cette fois. Il y en a un qui a mis son droit de veto, on est remonté en surface et on a vérifié, et non, il n'y avait pas de menace, et on a évité, encore une fois, un apocalypse.
Et en petite musique, qui c'est qui l'a composé ?
Hans Zimmer ! Voilà, ça lui a rapporté un Grammy Awards pour ce thème principal. On notera qu'il utilise fortement les synthétiseurs en lieu et place des instruments d'orchestre traditionnels.
Et un petit extrait qui arrive maintenant. Crimson Tide, theme song. Très américain comme musique. Ouais.
Très efficace.
Ouais, très efficace. Voilà,
très inspiré. C'est ça. Très inspiré aussi. Donc, on en a parlé dans la poursuite d'Octobre Rouge.
On a parlé de ce film-là ?
Oui, c'était au début.
Ah oui, quand je faisais de la merde.
Non, c'était après.
Ah, d'accord.
Voilà, allez, d'une torpille soviétique à une torpille sous l'Atlantique.
Ouais.
Et justement, torpille sous l'Atlantique. The Enemy Below. Oh yeah. Film américain de
1957. Oh la vache.
Ouais, c'est pas jeune, hein.
Ouais.
Dick Powell.
Ouais.
Musique Lagerlein.
Ouais.
Et les acteurs principaux.
Robert Mitchum.
Ouais. Et Kurt Jürgen.
Et deux grands noms du cinéma.
Voilà. Alors je vous fais un petit synopsis court.
Ouais.
Meurel, capitaine d'un navire de transport civil, est torpillé par un sous-marin allemand. Il perd son épouse. Blablabla. Il accepte le commandement d'un destroyer d'escorte de classe Buckley. car dit-il, il préfère être du bon côté du canon. Ouais, America, Great
c'est
Again.
Très, c'est très American base.
Là, on est tellement dedans. Bon, il patrouille dans l'Atlantique Sud après être parti du port de Trinidad dans les Caraïbes. Il détecte la présence d'un sous-marin allemand, celui-ci commandé par von Stolberg.
Bien
Yar. Un duel s'engage alors. Bah ouais, c'est Hollywood, faut pas déconner. Ouais. Hein, après le Western Spaghetti. Le destroyer traquant le submersible au sonar, lui lançant des grenades, le sous-marin riposte en tirant ses torpilles. Qui va gagner? Chacun des deux commandants ennemis rivalise d'audace pour déjouer les actions de l'autre. On est dans le plus pur style hollywoodien de l'époque. Les deux navires, évidemment, se détruisent mutuellement. Les équipages échappent quasiment tous à la mort. Hein, c'est bien foutu, moi, je trouve. Voilà. Le commandant Morel sauve personnellement son homologue allemand. Ah, bah, on est à deux doigts du Pax à la fin. Voilà, voilà. Et à la fin, ça se termine. Ils fument une cigarette ensemble. Ceci est totalement réel. Donc voilà. Et on va s'écouter un petit bout de Torpille sous l'Atlantique.
Une petite musique pour rigoler, pour dire que c'est très crédible. Allez, donc, petit Torpille sous l'Atlantique. Bon, on va pas vous la mettre en entier, vous avez compris, c'est bien grandiloquent, c'est bien Hollywood années 50, c'est nous les meilleurs, on sort les biscottos, y a la musique qui va avec. Joue au kilomètre, c'est ça?
Donc, Lagerlöf donc?
Oui.
C'est ça, c'est lui-même, compositeur américain de musique de film, donc, qui a travaillé au studio Disney de 1933 à 1941.
Ouais.
Compositeur, musique de film d'animation, donc. Carrière de 33 à 65.
Ouais. Je vous le laisse derrière, c'est quand même. C'est bien sympa comme musique, ça remonte un petit peu le moral.
Ah,
par
ça
rapport...
fait une voilà, musique d'ascenseur, tout ce qu'il y a de plus sympathique, moi, je trouve. Ouais, on pourrait la mettre en boucle, ça fonctionne.
Ouais, parce que, je veux pas dire, on a quand même eu quelques musiques qui étaient... J'allais dire plombante. Bon, la première, Yellow Submarine était très joyeuse.
Oui, non, mais là,
puis après, bah, on était dans les sous-marins. Bah, c'est la guerre, c'est la tension, c'est la claustrophobie, c'est la promiscuité, c'est la tension. Donc forcément que ça nous mettait un peu en stress.
Oui.
Mais finalement, avec cette bonne humeur, on pourrait dire... et si on sortait quand même le périscope, et qu'est-ce que je vois? Bah malheureusement, ce point, bah à la fin de l'émission, parce que il est 21h54 à la pendule d'Ornithorynque. Et bah, je vais vous faire une cascade à la bébelle. Youpla boum, quelle transition vers Down Periscope. Oui, allez, je te laisse la version française du titre. Et je laisse à Jérôme encore tenir le crachoir, parce que moi, justement, si c'est pour dire trop de bêtises.
Oui, hein, oui.
Ouais.
Laissez-nous, monsieur, laissez-nous.
C'est touche pas à mon périscope, c'est
touche
ça, en français?
Touche pas à mon périscope, où y a-t-il un commandant pour sauver la Navy?
Ouais, ouais.
Rien de ça. Ouais, Down Periscope, c'était trop court, faut croire. Bon, film américain, hein, si. Une comédie, donc, réalisée en 95 par David S. Ward, sortie en 96. Synopsis, l'excentrique commandant sous-marinier Thomas Dodge, joué par Kelsey Grammer, a été mis au placard de la Navy, mais rêve de commander un sous-marin nucléaire. Ouais, on n'a pas tous les mêmes rêves.
S'il te plaît, papa !
Oui, c'est un peu ça. Il va être le jouet de la lutte entre les amiraux Dane Winslow, Rip Torn, qu'on a bien vu aussi dans Men in Black, et Yancy Graham, Bruce Dern, que je ne sais pas où on a vu aussi.
Oh,
au travers d'une simulation de guerre. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, il se trouve encore, ça reste très crédible. continue. Il se retrouve aux commandes d'un antique sous-marin de la classe Balao. Mais c'est une... oui, c'est un vieux
c'est,
clou.
C'est Balao. Hein.
C'est vraiment un vieux clou. Hein. Le nom, en plus.
Ouais.
Datant de la Seconde Guerre mondiale, le USS Stingray SS-161. Avec un équipage très pittoresque. Alors ça aussi, je vous conseille d'aller voir.
Ouais, c'est, voilà. C'est Hot Shots, version sous-marin.
Ah, ça reste assez crédible, ça reste sympa. Et il y a vraiment un côté... ouais... C'est bonne poire, c'est vraiment sympa. C'est vraiment...
Et on a une musique de...
Randy Edelman, un compositeur et acteur américain.
Ouais.
Voilà.
Et je suis quand même en train de voir, il est 56, on va se quitter. Et pour ce film, y a une musique joyeuse chantée qui date de 78, c'est de la disco, c'est le titre In the Navy.
On est dans la lignée du film.
Ouais.
Pour la petite histoire... C'est les Village People,
ouais.
C'est les acteurs du film. On prend des morceaux du film, on tourne dans le sous-marin.
Et on fait le
on
clip.
On fait une joyeuse mayonnaise de tout ça.
Ouais.
Et ça va vous donner 4 minutes 30 à peu près de mémoire, de pur bonheur. Et je vous conseille d'aller voir aussi ce clip, vraiment le voir.
Ouais.
Parce que les acteurs s'éclatent. Et on ne sait plus qui sont les guests, qui sont les chanteurs. C'est magnifique. C'est magnifique.
Ouais. Et donc, comme c'est la fin de l'émission, je vous
dis. C'est l'heure d'y aller.
À vendredi 12 avril, le deuxième du mois d'avril. Et j'espère que nous nous marrons bien, comme grâce à ce film Down Periscope. Je remercie à nouveau Maëlan. Allez, dis un petit au revoir, puisque t'as pas dit bonjour.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci à tous ceux qui étaient sur Facebook.
Oui.
On a eu plein de messages, on a oublié un peu d'y répondre au micro, mais merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Merci à nos amis de la technique.
Ouais, je ne sais pas de qui tu parles. Merci Teddy, tu reviens en avril, s'il te plaît.
Non.
Et salut Jérôme, t'as vachement bien bossé. Tu mérites un gros dodo dans un sous-marin.
T'as raison.
Et donc, vous réécoutez cette émission un peu foutraque, ce dimanche entre 15h et 16h sur Ornithorin 90.2 FM, DAB+, Canal 7B, enceinte connectée, www.ornithorin.net, et après, ça sera en podcast. Et si je me plante pas, je vous envoie In the Navy par Village People.
Salut,
salut à tous.
Sail the seven seas.